Bon matin, espoir, ça va bien? Je vous spoil pas, maintenant on va voir la fin de notre livre de Ruth, on continue notre série. Moi je suis vraiment tout excité parce que c'est vraiment un livre magnifique, probablement un de mes préférés dans l'Ancien Testament. Et puis on voit particulièrement l'histoire de la rédemption, l'histoire que la Bible au complet veut nous raconter avec le point culminant, Jésus-Christ. Pour ceux qui ont écouté toutes nos prédications, vous voyez à quel point tout ce passage nous ramène à la Bible, à l'histoire que la Bible veut raconter. Et donc je suis vraiment très, très heureux de pouvoir conclure cette série qu'on a nommée « Sous ses ailes ». On veut être sous les ailes de notre Dieu, comme Ruth a été sous les ailes de Boaz, comme Ruth s'est mise sous les ailes de l'Éternel Dieu, notre Dieu. Et donc, avant de lire les derniers versets, je voulais qu'on prenne quelques minutes pour regarder un peu derrière nous qu'est-ce qu'on a vu, puisque c'est les vacances, plusieurs sont absents encore aujourd'hui, d'autres l'été, lors des dernières prédications. Donc je voulais qu'on fasse un peu le retour en arrière sur toute cette magnifique histoire, et surtout pour comprendre la puissance de la fin de cette histoire qu'on va voir ce matin. Et donc, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, au chapitre 1, on a vu un homme qui est à Bethléem avec sa famille et qui quitte la maison du pain. Bethléem, c'est ça que ça veut dire, la maison du pain. Mais paradoxalement, en fait, cette maison n'a plus de pain. Il y a une famine dans le pays, il n'y a plus à manger. Et c'est pour ça qu'il quitte ce pays de Bethléem pour aller dans le pays étranger, chez les ennemis. Dans le pays de Moab, Élimélec, cet homme, prend sa femme, Naomi, ses deux fils, et part à Moab. Et là, ce qu'on aurait pu s'imaginer, c'est qu'il rentre dans un nouveau pays où il n'y a pas la famine et que ça va mieux. Mais non, tout s'empire pour lui. Naomi perd son mari, Élimélec meurt. 10 années passent sans que ses enfants donnent des petits-enfants à Naomi. Et puis finalement, elle perd ses deux fils. En quelques versets, cette femme, Naomi, qui a fui son pays à la recherche d'un meilleur avenir, d'une sécurité pour sa famille, se retrouve veuve, sans descendance et dans un pays étranger. Alors, elle décide de retourner à Bethléem parce qu'elle a entendu dire que la maison du pain a enfin du pain dans son pays. Et puis, elle dit à ses deux belles-filles, « Repartez, repartez !» Et puis Ruth, contre toute attente, sa belle-fille choisit de la suivre et va prononcer cette phrase magnifique, « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ça, c'est Ruth, chapitre 1, verset 16. Et lorsque Naomi arrive dans cette ville, dans la ville de Bethléem, elle est complètement brisée. Les femmes de Bethléem, ses anciennes amies, la reconnaissent. Mais Naomi, elle va lui dire, « Non, 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 ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. » Naomi, ça voulait dire « agréable » et Mara, ça veut dire « amer ». Pourquoi ? Parce que maintenant, j'ai un cœur amer contre Dieu. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, elle va dire. « J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. » Et pourtant, quand on regarde, elle ne revient pas tout à fait les mains vides. Elle revient avec Ruth. Ruth est là, elle est là à ses côtés. Mais son cœur, lui, est rempli d'amertume et ferme les yeux sur Ruth. Naomi n'est encore pas capable d'imaginer ce que Dieu pourrait faire à travers cette jeune femme. Et peut-être que certains d'entre vous connaissez cette saison-là. Ces moments où on a imaginez ce à quoi notre vie pourrait ressembler et qu'au final, rien ne se déroule comme ce qu'on aurait pu imaginer. On a prié, on a espéré, on a essayé de bien faire, d'essayer de prendre des bonnes solutions, même si ce n'était pas toujours les meilleures. Et pourtant, on ne comprend pas ce qui nous arrive. On a pour Dieu 1000 questions et très peu de réponses, voire pas de réponses. Ça, c'est le chapitre 1 de Ruth. Puis vient le chapitre 2. Et là, il y a une petite lueur d'espoir qui commence à briller dans cette histoire. Rien n'est réglé, il faut manger, il faut vivre. Alors, le réflexe normal de toute personne, comme Ruth, elle part travailler. Elle va glaner derrière les moissonneurs, c'est ramasser quelques épis qu'ils auraient oubliés pour pouvoir manger. Et le narrateur nous fait un joli clin d'œil. Vous vous souvenez de ça? On avait vu que c'était comme par hasard que Ruth choisit ce champ. Comme par hasard, ce champ appartient à Boaz, un homme riche, un homme fidèle, un homme intègre qui suit Dieu. Et comme par hasard, cet homme remarque Ruth et porte attention à elle. L'auteur veut décidément nous attirer notre attention sur le fait que Dieu est quand même à l'œuvre. Même quand tout semble dérailler dans notre vie, Dieu est à l'œuvre et rien n'échappe à son contrôle. Et peut-être que certains d'entre vous sont là. Tout n'est pas réglé dans votre vie. Nous n'avons aucune garantie pour demain, mais au milieu de toutes ces incertitudes, nous voyons le clin d'œil ou des clins d'œil de Dieu qui nous rappelle que malgré tout, Dieu est au contrôle. Puis arrive le chapitre 3. Naomi comprend que Boaz, celui qui s'intéresse à Ruth, aurait le pouvoir de racheter, de les racheter, d'être leur rédempteur, c'est-à-dire un homme qui pourrait racheter leur terre et s'engager à prendre soin de ces deux femmes pour restaurer leur dignité, pour les sécuriser, pour leur donner un avenir. Ruth s'approche alors de lui, de Boaz, et lui fait cette demande d'étendre son aile sur elle, c'est-à-dire tout simplement, épouse-moi. Je veux être de ta famille, je veux être lié à toi. Quel pas de foi de Naomi! Quel pas de foi! Incroyable! Et on pourrait se dire, ça y est, toute l'histoire va s'arranger. Enfin, la fin heureuse et belle qu'on voudrait, elle est là, elle est sous nos yeux, on va assister à ça. Mais non, il y a un nouvel obstacle qui arrive. Il existe un autre homme qui a le droit de rachat avant Boaz sur Ruth et Naomi. Et même si les deux amoureux veulent se marier, même s'ils veulent par-dessus tout être fidèles à Dieu et obéir à sa voix, ce sont des personnes intègres à Dieu. Et on avait vu cet enseignement fort que leur désir de se marier ne leur donne pas le droit de contourner la loi de Dieu, ne leur donne pas le droit de contourner l'ordre établi par Dieu. Même si toute cette histoire nous semble bonne, même si d'apparence on a l'impression qu'ils font rien de mauvais, on a vu que la foi ne consiste pas seulement à vouloir une bonne chose, mais la foi juste et bonne veut faire les choses de la bonne manière. Et peut-être que c'est certains d'entre nous, on en est là. Il y a plusieurs options devant nous et plusieurs chemins. Et peut-être que le chemin le plus simple serait de faire en fait un compromis vis-à-vis de ce que Dieu nous demande dans sa parole. On pourrait trouver toutes sortes de raisons, toutes sortes d'excuses qui, d'apparence, seraient bonnes, mais qui essaieraient, en fait, de justifier un compromis que Dieu ne nous demande pas de faire. Mais à travers cette histoire de Ruth et de Boaz, Dieu nous encourage à lui faire confiance, à ne pas faire des compromis, à être fidèle à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Parce que Dieu a prévu quelque chose de bon pour nous, pour la suite. Et puis on arrive au chapitre 4. Boaz se rend à la porte de la ville pour discuter avec cet homme qui a droit de rachat. Et finalement, cet homme va renoncer à son droit de rachat. Un accord va être trouvé devant témoins. Et Boaz rachète celui qui appartenait à la famille d'Elimélec pour prendre Ruth pour femme. Verset 13 nous dit Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Waouh ! Quelle fin extraordinaire ! Vraiment, cette fin des plus dignes, des plus belles histoires d'amour. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. N'est-ce pas ? Et on pourrait croire que l'histoire est terminée là. Mais la réalité, c'est qu'il nous reste encore une prédication. Il nous reste encore 10 versets. 10 versets. Et Pourquoi ? Parce qu'en réalité, depuis le début, Dieu est en train de faire quelque chose de beaucoup plus grand que ce que Ruth, que ce que Naomi, de ce que Boaz, que ce que tous les gens aux alentours auraient pu imaginer. Et peut-être qu'aujourd'hui, en regardant en arrière, tu vois toutes les épreuves que tu as traversées, toutes les fois où Dieu a été fidèle, et puis tu es enfin dans une saison de reconnaissance. Tu es enfin émerveillé de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et il y a encore un bel enseignement à recevoir pour nous aujourd'hui. C'est que les bénédictions de Dieu ne s'arrêtent pas à la résolution de nos défis. Elles vont beaucoup plus loin. Elles sont beaucoup plus grandes que ça. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et dans le fond, ce qu'on va voir ce matin, c'est que la raison pour laquelle ce livre a été écrit, c'est que tout ça nous aide à voir que dans les jours les plus sombres, Dieu est toujours à l'œuvre. Et il fait bien plus que ce que nous aurions imaginé pour notre avenir. Alors Matthieu va nous lire Ruth, chapitre 4, les versets 13 à 22.
Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille, qui t'aime, l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom, en disant, « Un fils est né à Naomi », et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Pérets. Pérets engendra Hétron, Hétron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David.
Amen. Merci Matthieu pour cette lecture. Ce que j'aimerais voir avec vous, en tout cas pour commencer, c'est de voir à quel point Naomi est passée de l'amertume à la bénédiction. De voir que, en fait, le livre de Ruth, c'est un livre qui commence dans l'amertume et qui se termine dans la bénédiction. Et tout d'abord, j'aimerais qu'on regarde le chemin parcouru. Et à travers ce chemin parcouru qu'on a entendu dans l'introduction, il y a un truc qui est fou dans cette histoire. C'est que Ruth, finalement, dans le passage qu'on vient d'entendre, disparaît complètement de l'histoire. Vous avez remarqué le mouvement du texte ? Au verset 13, tout tourne encore autour de Boaz et de Ruth. Ils se marient, l'Éternel permet à Ruth de concevoir et elle donne naissance à un fils. Mais au verset 14, on ne parle plus du tout de Ruth. Le texte dit, les femmes dirent à Naomi. Quand un enfant naît, généralement on félicite la mère, n'est-ce pas ? Pas la grand-mère. Ici c'est et dire à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restera ton âme, l'âme de Naomi, et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille, notez une chose ici, c'est pas « car Ruth », non, c'est « car ta belle-fille ». Et dans tout le passage de Ruth, dans tout le livre de Ruth, on voit que Ruth est clairement nommée. Et quand elle est nommée, des fois, on appuie même, c'est Ruth la Moabite, c'est Ruth l'étrangère. Et là, on ne parle même pas de ça. On parle, c'est ta belle-fille. On ne veut même pas la nommer, parce que tout l'accent est focalisé sur Naomi. Et je trouve ça vraiment étonnant. C'est Ruth qui vient d'accoucher. Pourtant, le narrateur ramène Naomi au centre de notre attention. Comme si le narrateur ne voulait qu'on regarde une dernière fois à son commencement, au commencement de l'histoire. Donc c'est vraiment un appel pour nous à mettre Ruth 1 au même niveau que Ruth 4 et voir les liens qui se font. Au chapitre 1, Naomi arrive à Bethléem et les femmes de la ville l'entourent et disent « Est-ce là Naomi ?» Et au chapitre 4, Nous sommes toujours à Bethléem, avec ces mêmes femmes qui se réunissent autour d'elle. Même ville, même femme, même Naomi, mais une situation radicalement différente, complètement opposée. Au chapitre 1, Naomi va dire « Ne m'appelez pas Naomi, qui veut dire agréable. Appelez-moi Mara, qui veut dire amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Autrement dit, voilà ce que la souffrance a fait de moi. Voilà maintenant qui je suis. Et regardez maintenant Ruth 4, verset 14, les femmes dirent à Naomi. Ils ne dirent pas à Mara. Ils dirent à Naomi. Le narrateur n'appellera jamais Naomi Mara. C'est elle qui s'est donné son nom, ce nom d'amertume. Mais Dieu n'a jamais permis que l'amertume devienne son identité. Et c'est un message hyper important pour nous ce matin. Peu importe dans quel chapitre de vie tu es aujourd'hui, peut-être le chapitre 1, 2, 3 ou 4, ne laisse pas la douleur, ta douleur, qui est peut-être bien réelle, que Dieu ne minimise pas du tout, mais que Dieu ne permet pas qu'elle devienne notre identité. Ta douleur n'a pas le droit de devenir ton identité. Tu peux traverser le deuil sans devenir celui qui a tout perdu. Tu peux traverser l'échec sans devenir toi-même l'échec. Tu peux vivre une déception profonde sans devenir la personne que Dieu a oubliée. Ne laissez pas, mes amis, votre douleur écrire votre identité et encore moins la conclusion de votre histoire. Regardez ce que les femmes disent au chapitre 4. « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer d'un homme ayant droit de rachat sur toi. » Quelle différence ! Au chapitre 1, Naomi disait, en regardant sa vie, « Je suis vide, j'ai plus rien, j'ai tout perdu. » Et au chapitre 4, les femmes disent, « Tu es béni ! Tu es béni par l'Éternel ! » Parce que tu as une descendance, parce que quelqu'un t'a racheté, parce que maintenant, tous tes problèmes semblent être résolus. Au chapitre 1, Naomi a tout perdu. Elle qui a tout perdu. Au chapitre 4, elle tient dans ses bras quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'elle n'aurait pu imaginer après la mort de ses fils. Remarquez bien, Dieu n'a pas simplement remis la vie de Ruth telle qu'elle, comme avant. Élimélec n'est pas revenu. Malcon, Kiljon ne se sont pas ressuscités. Ruth 4 n'efface pas Ruth 1. Les pertes sont réelles. Elles ont existé. Les blessures sont là. Les cicatrices sont là. Mais la grâce de Dieu est bien plus grande qu'un simple bouton retour en arrière. Dieu ne se contente pas nécessairement de nous rendre la vie que nous avons eue avant ou qu'on aurait toujours imaginée. Il est capable d'écrire quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qu'on n'aurait nous-mêmes pas imaginé. Laissez-moi vous parler de l'histoire de Hudson Taylor, ce grand missionnaire qui est parti annoncer l'évangile en Chine au 19e siècle. Avec sa femme, Maria, ils ont eu 9 enfants. 3 sont morts à la naissance et 2 pendant leur enfance. Dans les années 1870, leur petit Samuel, 5 ans, tombe gravement malade et meurt. Quelques mois plus tard, Maria donne naissance à un petit garçon qu'ils appellent Noël. Il arrivera à vivre que 13 jours. Quelques jours après avoir enterré leur bébé, Maria tombe gravement malade à son tour, et alors qu'elle n'a que 33 ans, le 23 juillet 1870, elle meurt dans les bras de son mari, Hudson. Imaginez-le un instant. Plusieurs de ses enfants sont morts. Sa femme vient de mourir. La vie qu'il avait imaginée de servir Dieu avec sa famille en Chine vient de complètement s'écrouler. Et Dieu ne lui rendra jamais. Samuel ne reviendra pas. Noé non plus, Maria non plus. Mais Dieu n'avait pas fini d'écrire l'histoire de Hudson. Hudson Taylor continuera à servir en Chine. Il va se remarier et sa mission, China Island Mission, continuera à se développer malgré les épreuves et les oppositions qu'ils vont recevoir. En 1881, Hudson a prié pour 70 missionnaires et ils sont arrivés dans l'année suivante. En 1887, il a prié pour 100 missionnaires de plus et 102 missionnaires sont arrivés l'année suivante. En 1905, l'année de sa mort, sa mission comptait plus de 800 missionnaires, plus de 300 stations missionnaires à travers tout le pays de la Chine. Sa mission a comptabilisé entre 20 000 et 25 000 baptêmes. Encore aujourd'hui, l'œuvre qu'il a initiée a profondément marqué la mission moderne. Un jour, Hudson Taylor a dit « Il faut la présence de difficultés spéciales pour manifester à tous les travaux du puissant pouvoir de Dieu. » Et pour de telles difficultés, nous pouvons et devons être reconnaissants et non abattus. Wow. C'est précisément ce que le livre de Ruth nous apprend. Dans ces moments où on ne comprend pas tout ce que Dieu est en train de faire, nous pouvons continuer à lui faire confiance. Non pas parce que nous savons comment les choses vont se terminer, mais parce que nous savons celui qui tient notre histoire entre ses mains. Parce que celui qui tient nos histoires entre ses mains nous a donné des promesses sûres et certaines qui s'accompliront pour chacun d'entre nous. Hudson Taylor, dans les moments les plus sombres de sa vie, n'aurait jamais pu imaginer ce que Dieu allait faire à travers son ministère. Et Naomi de Ruth 1 n'aurait pas pu imaginer la Naomi de Ruth 4. Alors peut-être que toi aujourd'hui, tu regardes ta situation et tu te dis, en fait c'est fini, il n'y a plus rien à espérer. Et il n'y a rien de bon qui va sortir de ma situation. Rappelle-toi que la page la plus douloureuse que tu vis aujourd'hui n'épuise pas toutes les bontés de Dieu envers toi. Ne mets pas un point final là où Dieu est encore en train d'écrire. Fais-lui confiance, continue d'avancer avec lui. Parce que Naomi de Ruth 1 n'aurait pas pu imaginer la Naomi de Ruth 4. Et vous savez quoi? Ce qui est encore plus fou, c'est que la Naomi de Ruth 4 ne peut même pas imaginer tout ce que Dieu avait prévu avec la descendance de cet enfant. Elle ne sait toujours pas ce que Dieu a encore à écrire après elle. L'enfant qu'elle tient dans ses bras est une source de bénédiction énorme, non seulement pour elle, mais aussi pour son pays et pour nous encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que les femmes proclament Naomi comme étant bénie, parce que la bénédiction prend une forme de rédemption. Et c'est mon deuxième point. Les femmes vont dire à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. » Quand on lit ça dans premier abord, on peut se poser la question, mais c'est qui cet homme ayant droit de rachat? À première vue, ça pourrait être Boaz, n'est-ce pas? Après tout, on parle de Boaz depuis le début de cette histoire. Mais regardez le verset 15. Cet enfant. En fait, cet homme ayant droit de rachat, c'est cet enfant. C'est cet enfant qui restera ton âme et qui sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle fille qui t'aime l'a enfantée, elle vaut mieux pour toi que sept fils. On comprend alors que le rédempteur dont parlent les femmes, c'est donc cet enfant. Et regardez à quel point cet enfant change l'histoire de Naomi. Premièrement, il sera un restaurateur pour son âme. Naomi, qui pensait que sa vie était vide, la voit maintenant pleinement restaurée. Elle était pauvre, veuve, sans descendance, sans véritable perspective pour l'avenir. Et aujourd'hui, elle fait partie d'une famille riche. Elle peut considérer le couple comme étant ses enfants et comme étant la grand-mère de cet enfant. Deuxièmement, cet enfant sera le soutien de sa vieillesse. Quel soutien pour cette époque de savoir que la continuité de la famille est assurée. Naomi n'est plus laissée seule face à son avenir. D'autres prennent le flambeau. D'autres vont continuer à porter son nom, porter son histoire, porter sa famille. Et ce n'est probablement pas un hasard si au verset 17, les voisines donnent le nom d'Obed, ce qui signifie serviteur. En fait, cet enfant sera un serviteur pour Naomi. Il va lui servir en la restaurant, il va le servir en soutenant sa vieillesse. Et puis, on voit aussi que cet enfant est né de Ruth, elle qui vaut mieux que sept fils. C'est énorme parce que sept fils ici, c'est cette notion de la plénitude, d'une descendance idéale. Pour cette époque, c'était vraiment fort d'avoir sept fils. Et là, il y a presque quelque chose d'ironique parce qu'on dit que Ruth est meilleure que sept fils, alors que Ruth, c'est une femme, c'est la belle-fille, c'est la Moabite, l'étrangère. Et pourtant, c'est elle qui est devenue la plus grande bénédiction de Dieu pour la vie de Naomi. N'est-ce pas incroyable? Quelle bénédiction pour Naomi. Mais c'est pas fini. Regardez le verset 17. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. David, le roi David. Comme si le narrateur voulait appuyer quelque chose avec cet enfant. Cet enfant est une bénédiction bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Cette femme qui pensait « Je suis revenue les mains vides », maintenant tient dans ses bras le grand-père du roi David. Elle a une lignée royale entre ses mains. N'est-ce pas incroyable, n'est-ce pas merveilleux? Et ce n'est pas fini. Parce que nous, on connaît la suite de l'histoire. On sait que la descendance de David va amener au Messie, à Jésus, à celui que tout le peuple d'Israël attend, celui qui va secourir enfin le peuple d'Israël. Et on sait que Jésus ne vient pas juste pour poursuivre ou pour améliorer l'histoire de la famille de Naomi. Il vient pour accomplir tout ce que l'histoire, tout ce que la Bible annonçait, toute cette histoire du rachat. Il va venir chercher tout ce qui était perdu, payer lui-même le prix du rachat et de faire entrer tous les hommes et les femmes qui placent sa confiance en lui à venir dans sa famille. Et c'est là, mes amis, où toute la notion de rédempteur qu'on a vue depuis le début de Ruth prend tout son essor, son envol. Obed a restauré l'avenir de Naomi. David a été établi comme roi d'Israël. Mais de leur descendance est venu celui qui pouvait accomplir une rédemption bien plus profonde. Jésus est venu faire ce qu'aucun d'eux ne pouvait faire, nous racheter, nous, 2000 ans plus tard, de notre péché, venir nous réconcilier avec Dieu, nous ramener dans sa famille, être appelés enfants de Dieu. Jésus est notre parfait rédempteur. Regardez comme les paroles de Ruth 4 prennent une profondeur encore plus grande lorsqu'on regarde à Jésus. Obed devait être un restaurateur de l'âme de Naomi. Jésus est notre restaurateur parfait de notre âme. Lorsqu'on place notre confiance en lui, il pardonne nos péchés, il nous réconcilie avec Dieu, il nous donne une vie nouvelle. Ce que nous étions incapables de réparer, lui le restaure parfaitement. Obed devait être le soutien de sa vieillesse. Jésus est le soutien de notre vie. Il ne nous promet pas seulement qu'on va avoir plein de bénédictions et des années meilleures devant nous. Il nous promet sa présence avec nous alors qu'on est en chemin. Il nous tient dans sa main. Il nous assure un avenir avec lui pour l'éternité. Et Obed, grâce à Ruth, redonnait à Naomi un nom, une famille, une descendance, une réputation. Jésus, lui, nous donne la possibilité d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es assez bon. Tu n'as plus besoin de compenser avec tes échecs. Tu n'as plus besoin de mériter son amour. Jésus est ta justice. Jésus est ton soutien. Jésus est ton rédempteur. Et si Ruth valait mieux pour Naomi que 7 fils, alors combien plus nous pouvons dire « Jésus vaut mieux pour nous » que tout ce que nous pourrions essayer de gagner, ou de mériter, ou de construire par nous-mêmes. Quand on regarde à tout cela, Ruth, Obed, David et même Jésus, cette histoire en fait dépasse tout ce que Naomi aurait pu imaginer. Et pourtant, aussi extraordinaire soit-elle, cette histoire, on va se le dire, en apparence, n'a rien de spectaculaire. Bien sûr, elle se déroule dans une époque ou dans une culture différente de la nôtre, avec des lois, avec des coutumes, avec des traditions différentes qui, des fois, nous font dire bah, « je ne comprends pas tout, en tout cas, j'ai du mal à voir comment, moi, je me reconnais dans cette histoire. » Mais cette histoire, elle nous parle de deuil, de difficultés, de famille, de rencontres, de travail, d'une histoire d'un amour, d'un mariage, d'un enfant. Bah, en fait, c'est la vie. Il n'y a aucune mère qui a été séparée en deux. Il n'y a aucun feu qui est descendu du ciel. Il n'y a aucun mort qui a été ressuscité. Et c'est pour ça que cette histoire, elle est incroyable. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est une histoire que j'aime particulièrement. On peut tellement s'identifier dans cette histoire. Parce que Dieu n'utilise pas seulement des moments extraordinaires pour accomplir ses desseins pour nous. Il prend aussi nos vies ordinaires. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il fait entrer nos vies ordinaires dans son plan extraordinaire. Et c'est incroyable quand même quand on y pense. Tout ce que nous avons vu dans cette histoire, rien ne dépasse l'ordinaire. Repensez à Naomi qui décide de revenir à Bethléem. C'est un choix normal qu'on aurait tous fait ici. À Ruth qui abandonne le pays de Moab et qui se convertit en choisissant le Dieu d'Israël. Si vous êtes chrétien, j'imagine que c'est ce que vous avez fait. Au fait que Ruth choisit un champ par hasard. Elle ne connaît pas le lieu où elle est, alors elle choisit le premier qui vient. Que Boaz arrive au moment où Ruth est là et remarque Ruth. C'est juste une coïncidence. Coïncidence divine, certes. Mais une coïncidence. Il y a cette relation qui se construit. Comment on peut construire une relation entre nous? Derrière chaque décision, chaque rencontre, chaque conversation, chaque pas de foi, Dieu conduisait silencieusement les événements jusqu'à la fin que lui avait prévue. Et c'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. Le livre de Ruth nous montre justement la providence de Dieu à travers toutes ces étapes. Dieu gouverne souverainement les événements ordinaires de nos vies pour accomplir ses desseins, pour sa gloire et pour notre bien. Après, le livre entier où Dieu semble un peu disparu ou pas vraiment présent dans l'histoire, le narrateur nous dit explicitement, au verset 13, « L'Éternel permit à Ruth de concevoir ». C'est la seule fois où Dieu agit directement. C'est la seule fois où on voit Dieu qui agit, qui intervient. Et elle est là, à la fin du livre, un peu pour comme signer un tableau. Comme si Dieu voulait nous dire, vous pensez que je n'étais pas là? Ben, j'étais là. Vous pensiez que c'était le hasard qui a conduit tout ça? Ben non, c'était moi qui étais au contrôle de tout ça. Je conduisais l'histoire. Le Dieu qui semblait être silencieux n'a jamais cessé d'être à l'œuvre. Et ce même Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. Nous ne le voyons pas toujours, dans chaque saison, chaque chapitre de notre vie. Mais notre incapacité à voir sa main ne signifie pas l'absence de sa main. La postérité de Peretz, dans les 5 derniers versets, nous révèle en plus que Dieu conduisait pas seulement l'histoire de Naomi, mais conduit l'histoire de l'humanité au complet. Et tout ça, il conduit tout ça pour écrire son histoire à lui. Cette généalogie se termine par David. Puis, quand on passe à quand on tourne quelques pages de notre Bible, on arrive dans Matthieu chapitre 1. Et Matthieu chapitre 1 reprend le fil et nous conduit finalement jusqu'à Jésus. Regardez ce qu'il dit dans cette généalogie. Salomon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Ça, c'est le même texte copié-collé qu'on a vu. Et puis, plus loin, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Et ce qui est fou dans cette descendance, c'est qu'on y retrouve Rahab. Rahab, c'est une Cananéenne, c'est une étrangère. On y retrouve Ruth, la Moabite, aussi une étrangère. Des femmes étrangères sont dans la lignée directe du Messie d'Israël. C'est pas un accident ? Dieu était en train de conduire son histoire. Des siècles auparavant, Dieu avait dit à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, verset 3. Comprenez bien, les nations n'ont jamais été le plan B de Dieu. Avant Ruth, avant David, avant la croix, Dieu avait déjà dans son cœur de racheter pour lui un peuple qui venait de toutes les nations. Vous voyez comment ça glorifie Dieu ? De la lignée de son Fils. Dieu a choisi d'envoyer son Fils, lui a donné une lignée qui vient d'Israël, mais aussi de toutes les nations. Et non seulement ça c'est son passé, mais son avenir, ce pourquoi il est venu. Il est venu pour des Juifs et les nations. Et ça, mes amis, ça doit mettre le sourire à nos lèvres. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas juif. Mais ça veut dire que Jésus est venu aussi pour moi. Ça veut dire que Jésus, je peux faire partie de sa famille. Je peux rentrer dans sa lignée. Je peux me mettre sous ses ailes. Je peux venir au pied de la croix et trouver sa grâce qui m'attend les bras grands ouverts. Je peux trouver une grâce qui va me racheter, qui va me donner une raison de vivre, qui va me donner une vie remplie de joie malgré les épreuves, malgré les difficultés, qui va me donner un Dieu qui va être mon soutien, mon fidèle roc sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Et je vais trouver une famille. Je trouvais l'Église, une famille qui m'aime, une famille de gens ordinaires comme moi, qui vivent sous un Dieu extraordinaire. Mais si sa grâce est venue jusqu'à nous, ça veut dire qu'elle ne peut pas s'arrêter à nous. N'est-ce pas ? Remarquez que l'enfant dans les bras de Naomi fait parler les autres femmes. Ce que Dieu fait dans la vie de Naomi est visible et ça interpelle. Il y a quelque chose chez les gens qui se disent « Ok, mais attends, c'est bizarre, waouh, Dieu a intervenu ici. » La transformation qu'a connue Naomi et sa famille ne peut pas rester secrète. Elle en parle, elle se réjouit avec d'autres. De même, l'action de Dieu dans nos vies, c'est-à-dire notre conversion, mais aussi ce que Dieu fait dans notre quotidien, ne devrait pas rester pour nous. Et mes amis, la semaine prochaine, on va voir des baptêmes. Les baptêmes, c'est exactement ça. On va voir sur scène des personnes, entre autres 5 jeunes filles, qui vont dire « Jésus a transformé ma vie. Je vous raconte mon histoire, comment Jésus a fait dans ma vie et il peut le faire dans la vôtre aussi. » Oui, nous voulons faire entendre ce que Jésus fait à quel point Jésus est un merveilleux rédempteur pour ma vie, dans ma vie et pour la tienne. Je suis marqué de voir que dans le passage d'avant qu'on a vu avec le pasteur Joey, c'est un rituel qui prend des témoins. Les témoins sont là et voient que Boaz rachète Ruth. Mais qu'est-ce que font ces témoins? Ces témoins, ils ne vont pas garder ça secret. Le rôle des témoins, c'est justement de dire à qui veut l'entendre, « Oui, Boaz a racheté Ruth !» Est-ce que vous êtes un témoin? Est-ce que vous êtes capable de dire, « Oh oui, Dieu a agi dans l'œuvre de cette personne, cet homme, cette femme. J'en suis témoin et je veux le dire au monde. » Puis vous savez quoi? Il a fait ça dans ma vie aussi. Et il peut faire ça dans ta vie. C'est ça que nous sommes appelés à faire, avec passion, avec zèle. Peu importe les moqueries, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles face à nous, parce que Dieu nous remplit, Dieu nous a remplis, Dieu nous a donné une nouveauté de vie. Dieu nous a appelés ses enfants. Et en tant que ses enfants, on veut le faire connaître. Dans tout le long de la Bible, rien n'est resté secret. Jésus est apparu à plusieurs personnes, plusieurs dizaines de personnes après sa résurrection, pour prouver que ce n'est pas juste une pensée fanatique des disciples. Non, non, Jésus était visible pour qu'on puisse dire « Ok, cette histoire est bien réelle. » Plusieurs l'ont vu de ses propres yeux. De même, Jésus nous appelle à partager, à dire avec foi tout ce que Dieu fait. Apocalypse 7, verset 9, nous révèle en fait le plan de Dieu, jusque où Dieu veut aller. Je voudrais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Apocalypse 7, verset 9 dit, « Après ceci, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Voilà l'histoire extraordinaire que Dieu est en train d'écrire. Voilà le but, voilà la finalité de ce que Dieu veut écrire avec ta vie, avec notre vie, avec notre Église, pour notre ville à Longueuil, pour le Québec, mais pour le monde entier. Dieu veut rassembler des hommes et des femmes de toute langue, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Depuis la promesse faite à Abraham, à Ruth la Moabite, à David, à Jésus, jusqu'à cette foule innombrable dont nous faisons partie. Tous ensemble, nous serons réunis pour célébrer sa gloire pour l'éternité. La Bible nous montre un Dieu rédempteur qui vient pour nous racheter, nous tous, afin qu'un peuple de toutes les nations célèbre sa gloire pour l'éternité. Et maintenant, par grâce, il fait entrer nos vies ordinaires dans cette histoire extraordinaire. Alors ta vie n'a pas besoin d'être spectaculaire pour avoir une portée éternelle. Comme Ruth, fais fidèlement le prochain pas que Dieu t'appelle à faire. Aime, pardonne, sers, prie, persévère, accueille, donne et fais connaître Jésus le Rédempteur. Peu importe ce que cela peut te coûter, car de toute manière, Dieu seul est maître des circonstances et contrôle toutes choses par sa providence qui est bonne et parfaite. Allons et annonçons-le de tout notre cœur. Prions. Seigneur mon Dieu, je veux te louer, je veux te remercier parce que tu as donné ta vie pour moi. Tu as racheté mon âme. Tu as restauré mon âme. Seigneur, en restaurant mon âme, je peux compter sur toi. Tu es le soutien de ma vie. À chaque instant, peu importe, Seigneur, ce que je suis en train de traverser, à chaque instant, je peux compter sur toi. Je peux m'appuyer sur toi. Tu es un soutien solide et sûr. Seigneur, tu fais de moi ton enfant. Et c'est absolument incroyable. Je ne méritais pas ça. Et pourtant, tu l'as fait. Seigneur, tu es venu me chercher 2000 ans après ton fils. Et tu veux sauver encore. Il y a encore tellement de personnes, tellement de peuples, Seigneur, qui n'ont même pas l'option ou la possibilité d'entendre l'histoire de la rédemption, l'histoire de ce que Jésus a fait. Seigneur, donne-moi ce feu, donne-nous ce feu qui brûle pour toi, qui s'engage pour toi à te faire connaître. Que notre Église puisse être un tremplin pour faire connaître Jésus, ici à Longueuil, avec tous les efforts qu'on fait, mais aussi au Québec, en déployant, en envoyant d'autres ouvriers, d'autres pasteurs, en formant, en donnant, en soutenant financièrement, pour que l'œuvre avance au Québec. Mais Seigneur, ne nous permets pas d'oublier aussi toutes ces nations. Donne-nous ce goût pour aller vers les nations. Car toi-même, Seigneur, t'as aimé les nations au point de les mettre dans ta propre lignée et de mourir pour elles. Aide-nous à vivre ça, à accueillir les nations, à accueillir, Seigneur, tous ceux que tu as choisis, que tu appelles de ta famille. Et envoie-nous dans le monde. Sois glorifié pour ce que tu vas faire. En ton nom. Amen.